Ghislaine Mathieu présente Les chemins de la connaissance, avec aujourd'hui la participation de Mohamed Harkoun, professeur à la Sorbonne, et de Marie-Christine Budichowski, maître de conférence à l'Université de Rennes 2.
Alexandre le Grand dans la littérature islamique. Alexandre le Grand dans le Coran.
Ces gens dirent Odu al-Naïm. Les Yajouj et les Majouj sèment le scandale sur la terre. Pourrions-nous te payer un tribut qui te permettrait de construire une digue entre nous et eux? Il dit, la puissance que mon Seigneur m'a donnée est meilleure. Aidez-moi donc avec zèle, et je construirai un rempart entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer jusqu'à ce que l'espace compris entre les deux monts soit comblé.
Alexandre le Grand, roi de Macédoine, fils de Philippe et d'Olympias, né en 356 avant Jésus-Christ. Il fut éduqué par Aristote. Lorsqu'il mourut en 323 avant Jésus-Christ, son empire s'étendait jusqu'à l'Indus. La légende s'est emparée du conquérant de son vivant. Le monde islamique, historiquement impliqué dans les conquêtes d'Alexandre, l'a incorporé dans sa littérature. Mais surtout, le Coran reprend des faits et des dits d'Alexandre, ou attribués à Alexandre, et c'est la sourate 18 que vous venez de lire, Mohamed Harkoun, qui l'évoque.
Cette sourate 18 est célèbre parce qu'elle contient en fait trois récits extrêmement répandus et importants. Le fameux récit des sept dormants d'Éphèse, c'est le début de la sourate. Ensuite, un deuxième récit qui emprunte à la fois au roman d'Alexandre et à l'ancienne, la vieille légende de Gilgamesh. Et enfin, cet épisode qui est raconté ici, sous le nom de Dhulqarnayn, le bicornu, comme on le traduit, qui désignerait au conditionnel Alexandre, car les historiens discutent sur l'identification exacte de ce personnage légendaire, ainsi nommé dans le Coran, le bicornu. Mais Alexandre est devenu un personnage légendaire dans la littérature syriaque. Et il a été connu par conséquent en Arabie sûrement, et ce sont les échos de ce fameux roman d'Alexandre, qui est lui-même dû à un auteur ancien, le pseudo Callisthène, qui a permis de donner ici cet épisode de la construction d'un mur d'airain pour préserver un peuple qui a appelé au secours ce Dhulqarnayn, ou Alexandre, pour le protéger de Gog et Magog, Yajouj ou Majouj en arabe, ces deux peuples malfaisants, sauvages, barbares, qui sèment la terreur et le feu. Les commentateurs arabes se sont ingéniés, comme toujours lorsqu'il y a la mention de noms légendaires comme ici, ils s'ingénient toujours à retrouver la vérité historique et géographique de tout ce qui est mentionné dans le Coran, et la notion de mythe est tout à fait exclue de leur esprit puisque c'est Dieu qui parle. Il n'est pas question par conséquent d'élaborer une mythologie quelconque, car jusqu'à présent, la pensée musulmane et les musulmans s'opposent plus que jamais à une lecture qui restituerait la dimension mythique ou mythologique, il y a une différence, de récits comme celui-ci.
Mais les commentateurs musulmans actuels, modernes, contemporains, sont quand même à peu près d'accord pour admettre que le bicornu, qui porte deux cornes comme Moïse, signe de puissance peut-être, donc que le bicornu serait bien la figure d'Alexandre le Grand.
Le doute subsiste tout de même sur l'identification de ce Dhulqarnayn et Alexandre lui-même, le personnage Alexandre, l'Alexandre historique. Ça, jusqu'à présent, à ma connaissance, le problème n'est pas tranché. Mais on dit couramment que c'est lui. Bon, alors là, il y a l'approche historique et encore une fois la légende qui, à mon avis, conserve ses droits. Il faut laisser la légende courir telle qu'elle est et nourrir l'imaginaire littéraire ou religieux, selon les cas, sans que l'on puisse nécessairement trancher sur ce point-là.
Mais très tôt, les commentateurs arabes ont eu connaissance de la personnalité réelle d'Alexandre le Grand. Tabari, par exemple.
Oui, bien sûr. De toute façon, le personnage d'Alexandre est connu. Vous avez d'ailleurs plusieurs villes qui sont nommées Alexandre et dont les géographes arabes parlent. Plusieurs en Iran, en Égypte, bien sûr, en Syrie, il y a plusieurs toponymes qui s'appellent Alexandre et qui réfèrent à des villes. Marou, par exemple, en Iran, s'est appelé à l'Iskandaria comme l'Iskandaria que nous connaissons et qui est fameuse, évidemment, et qui revient à Alexandre, celle d'Égypte, la grande ville d'Égypte. Et cette connaissance historique d'Alexandre n'empêche pas, encore une fois, le développement d'une littérature mythologique à propos d'Alexandre, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous la plume des commentateurs du Coran, n'est pas du tout mythologique, mais pour eux, est historique. Mais pour nous, le problème demeure complexe, parce que nous savons très bien que ce que ces commentateurs nous livrent comme de l'histoire est en fait de la mythologie.
Mais Mohamed Harkoun, comment le Coran a pu s'emparer de ces récits mythiques?
Là, nous avons toute une veine de recherche qui nous permet de montrer comment l'intervention du Coran s'est emparée de récits mythiques fondateurs, de toutes sortes de symboliques religieuses ou littéraires, et en s'en emparant, il en a fait des personnages actifs pour illustrer ce qu'on appelle en théologie chrétienne l'histoire du salut, c'est-à-dire cette intervention permanente de Dieu dans l'histoire des hommes par l'intermédiaire de prophètes ou par l'intermédiaire de héros civilisateurs comme ceux de Dhulqarnayn ou Alexandre qui sont attirés vers la tradition prophétique et arrachés à leur milieu légendaire ou à leur milieu culturel originel. Et à ce titre, l'exemple de Dhulqarnayn est tout à fait significatif. Et c'est sous cet angle-là qu'il faut exploiter aujourd'hui aussi bien ce qu'en dit le Coran que ce qu'en disent les commentateurs. Et on peut montrer le travail des commentateurs qui acculturent, si l'on peut dire, des personnages légendaires qui appartiennent à une culture profane ou païenne, selon la perspective justement de l'histoire du salut, des Écritures. Les chrétiens, les juifs et les musulmans parlent des autres religions antérieures à eux comme de religions païennes. Donc ils transplantent toute cette culture dans une autre perspective et dans une autre symbolique qui est essentiellement une symbolique prophétique liée au grand phénomène culturel de la révélation. Et ici, Dhulqarnayn entre dans le processus continu de la révélation, tel que nous le connaissons à travers des figures de prophètes consacrés. Et son rôle est assimilé justement au rôle pratiquement de ces prophètes-là, et c'est l'épisode qui nous est raconté à propos de Gog et Magog et de la protection du peuple qui a appelé au secours Alexandre, comme disent les commentateurs.
Certes, la connaissance du personnage historique d'Alexandre le Grand, et plus encore de sa légende, va de soi en ce qui concerne le pourtour méditerranéen. Toutefois, le monde arabo-musulman s'enracine dans la péninsule arabique, et là, comment se fait-il qu'on ait pu avoir une connaissance aussi précise d'Alexandre le Grand, au moins dans sa légende?
Oui, on a tellement insisté sur les origines strictement arabes liées à la presqu'île arabique de l'islam qu'on a le sentiment que cette Arabie est complètement fermée à toutes les influences extérieures. Ceci est une image qui est due à l'insistance des musulmans eux-mêmes, bien sûr, pour marquer l'origine proprement arabe de l'islam, mais aussi des historiens orientalistes qui ont repris pratiquement la même chose. Et bien sûr, il y a eu des études sur la civilisation yéménite, égyptienne, le syriaque, etc., qui maintenant changent un petit peu cette vue que nous avons de l'Arabie. Et maintenant, nous savons que l'Arabie n'était pas du tout isolée. Et encore une fois, le Coran lui-même en témoigne, parce qu'il y a énormément d'emprunts qui sont faits aux langues et aux cultures ambiantes. Par exemple, il y a une étude du vocabulaire étranger à l'arabe dans le Coran qui mentionne plus de 40 langues extérieures auxquelles le Coran a emprunté des mots, évidemment, qui sont des mots étrangers à l'arabe. Donc, les influences existent. Seulement, ces études-là sur l'environnement culturel de l'Arabie et les cheminements des données culturelles appartenant à l'ensemble du Proche et Moyen-Orient, l'Iran compte énormément dans cette histoire-là, ces cheminements-là ne sont pas encore suffisamment étudiés. Il y a encore des choses à faire pour essayer de clarifier la venue d'éléments comme la légende de Gilgamesh, par exemple, dont je parlais et que l'on retrouve dans le Coran, et aussi comme des allusions très nombreuses à des histoires relevant des anciennes religions de l'Iran ou même de l'Inde, etc. Ces recherches, jusqu'à présent, ne sont pas suffisamment poussées pour que l'on puisse se prononcer sur les contacts effectifs qui pourraient expliquer davantage les retentissements dans le Coran de cette culture proche-orientale ancienne.
Le personnage du Coran, qui semble être Alexandre le Grand, est qualifié de bicornu, celui qui porte deux cornes. Bien sûr, on pense tout de suite à Moïse, qui était bicornu, et il s'agissait de deux petites cornes érigées sur le sommet du crâne. C'était sans doute un signe de puissance. Mais en ce qui concerne Alexandre, est-ce qu'il n'y a pas eu une autre piste à explorer, Marie-Christine Bidichowski?
Je pense qu'il y a effectivement une autre solution qui serait le rapport avec les cornes enroulées du bélier du dieu Amon, attribué à Alexandre le Grand.
Oui, parce que Alexandre le Grand avait choisi d'honorer le dieu Amon.
Effectivement, il a voulu le consulter dans son oracle de Siwa, et c'était effectivement quelque chose de très important pour lui, oui. Car cet oracle était visité par tous les grands rois et tous les personnages politiques importants de l'époque.
Alors, l'oracle de Siwa, Siwa, c'est une oasis aux confins de l'Égypte et de la Libye, dans le désert libyen. Et donc, Alexandre le Grand s'y est effectivement rendu. Historiquement, c'est vérifié.
Il s'y est rendu en 331, et cela, bien qu'il existe tout près de la Macédoine une filiale de cet oracle, il a tenu à se rendre sur le site même d'origine.
Et en quelque sorte de se consacrer au dieu Amon, ou comment peut-on dire
C'est-à-dire, je crois qu'il faut rattacher cela à la prétention d'Alexandre d'être un dieu. Car il se fait salué par les prêtres dans cet oracle du nom de fils de Dieu, fils de Zeus Amon, et c'est une manière aussi pour lui de légitimer sa domination universelle, en quelque sorte sur les deux cornes, pour prendre une image, c'est-à-dire sur les deux extrémités du monde, l'extrémité orientale et l'extrémité occidentale.
Alors donc, Alexandre le Grand porte les insignes, si l'on peut dire, du dieu Amon, les deux cornes, cornes de bélier mêlées à la chevelure, et on en verra des gravures sur des monnaies.
Oui, et ces cornes sont d'ailleurs aussi bien attestées au niveau des sources écrites que des sources iconographiques. Pour les sources écrites, on nous dit qu'il portait ces cornes sous forme soit de postiches, soit de bijoux. Et les successeurs d'Alexandre, par exemple le roi d'Épire, Pyrrhus, lui aussi aurait porté un type de casque orné de ses cornes d'Amon. La plupart des représentations d'Alexandre cornu se trouvent sur des gemmes, sur des monnaies, sur des têtes, surtout en provenance d'Égypte ptolémaïque. Et cette image des cornes est reprise par les successeurs d'Alexandre, ces généraux qui se sont partagés son royaume, enfin son empire même. C'est un thème donc très répandu de propagande dans les monnaies des rois hellénistiques. Je vais donner quelques noms peut-être, les Ptolémées d'Égypte, les Séleucides de Syrie et Lysimaque, le roi de Thrace, sur le bord donc de la mer Noire. Ces types monétaires qui légitiment un pouvoir donc dans la lignée d'Alexandre, parés de ses cornes divines, ont été répandus dans tout le bassin de la Méditerranée, et cette représentation du grand conquérant est donc popularisée. Sans compter qu'il est souvent difficile de distinguer le portrait du héros de celui des rois postérieurs qui vont le prendre comme modèle. Donc je pense que vous avez retrouvé une survivance littéraire de ce thème dans le monde arabe. Il serait intéressant de voir s'il est, il existe aussi une survivance au niveau de l'iconographie.
C'était Alexandre le Grand dans la littérature islamique. Première émission d'une série de 5 proposée par Ghislaine Mathieu, avec ce matin la participation de Mohamed Harkoun et Marie-Christine Budichowski. Mixage Édouard Campras, réalisation de ces chemins de la connaissance Claire Almérac, ces chemins de la connaissance qui vous proposeront demain Alexandre le Grand vu par les Arabes.